18h. Le journal de 18h. Christelle Yesso.
Madame, monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus au dernier point d'actualité de ce lundi 25 novembre. Ouverture de la CGC Academy, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs au cœur des échanges de cette 12e édition. Et désormais, le fonds de garantie automobile prendra en charge les victimes d'accidents admises en urgence, a annoncé un décret adopté lors du Conseil des ministres jeudi dernier. Les conditions à découvrir dans cette édition. Hors de chez nous, Israël donne son feu vert à la finalisation de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban. Et nous refermerons ce journal avec un dossier d'actualité. Notre correspondant Stéphane Adams nous emmène à Biankouma, où les habitants sont contraints d'utiliser des tricycles pour leurs déplacements, faute de taxi, malgré les risques d'accident. Nous y reviendrons en fin d'édition. Accompagner les jeunes entrepreneurs et aborder des thématiques économiques cruciales telles que les services financiers, l'entrepreneuriat féminin et bien d'autres est l'objectif visé par la 12e édition du Forum économique du patronat ivoirien CGC Academy. L'événement a ouvert ses portes ce lundi sous le thème « Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ?» Environ 2000 participants sont attendus avec des opportunités d'emploi pour les jeunes en invité d'honneur pour cette année, Singapour et l'île Maurice présentés comme modèles de réussite. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Mata Touré.
Initié en 2012, l'événement est une plateforme d'échange sur les problématiques du secteur privé en Côte d'Ivoire et sur le continent également. Mais aussi un espace d'accompagnement des jeunes entrepreneurs et start-up. Amé Tissé est le président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Il nous donne ici un aperçu du menu de CGC Academy Cru 2024.
Le programme abordera des thématiques cruciales pour notre avenir économique, notamment les services financiers et la future Afrique, l'inclusion et l'entrepreneuriat féminin dans le secteur des services, les industries culturelles et créatives, la logistique et l'amélioration des flux commerciaux.
Deux pays sont à l'honneur cette année, Singapour et l'île Maurice, à considérer comme des modèles de réussite en matière de développement de l'industrie des services. Souleymane Diarra-Souba est le ministre du Commerce, de l'Industrie. Il a par ailleurs insisté sur la pertinence du choix du thème de cette année.
L'industrie des services a connu une expansion significative ces dernières décennies et représente, selon la Banque mondiale, en 2022, 46% du produit intérieur brut en Afrique subsaharienne. Les services numériques et financiers offrent des solutions adaptées aux réalités locales, génèrent des millions d'emplois, notamment pour les jeunes, favorisant ainsi l'inclusion économique et la stabilité sociale.
Environ 2000 participants sont attendus, avec en perspective plus de 400 opportunités. L'un des temps forts a été le partage d'expériences du docteur Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, mais surtout première femme et première africaine à occuper cette fonction.
Jeudi dernier, les utilisateurs des services du Comité national de télédétection et d'information géographique, en abrégé CNTIG, se sont réunis à Abidjan. L'objectif était de communiquer sur l'expertise de l'organisation. Le CNTIG a présenté ses services, notamment le e-commune, qui vise à mobiliser des ressources pour les collectivités territoriales. Cette conférence, qui en est à sa première édition, s'est tenue sous le thème « L'appropriation des outils géodécisionnels pour relever les défis et améliorer les performances opérationnelles des structures. Mais Emmanuel nous fait le compte-rendu de cet événement.
Des visites de stands, des panels, des communications, ce sont entre autres les activités qui ont meublé cette journée dédiée au CNTIG et ses utilisateurs. Le directeur général, Dr Edouard Fongbeyi, est revenu sur les impacts des produits de sa structure dans la gestion des défis opérationnels dans les domaines que sont
le développement local, la gestion des infrastructures, la gestion climatique, l'urbanisation, le développement économique, le transport et les services publics.
Au titre du développement local, le directeur du numérique et des statistiques du CNTIG, Aounouj Jacob a présenté les avancées réalisées, telles les solutions e-commune et e-région, aidant à une meilleure mobilisation des ressources.
Ces outils permettent aujourd'hui la géolocalisation des contribuables sur les étendues des collectivités territoriales, l'évaluation du potentiel fiscal qui permet aux élus de pouvoir maîtriser leurs recettes fiscales, le paiement électronique des taxes communales et régionales.
Pour ce qui est du secteur de l'éducation, le directeur des statistiques et de l'informatique au ministère de l'Enseignement technique, Diakité Daouda, a également fait cas de l'outil dont bénéficie son ministère pour l'amélioration de ses performances.
C'est le système d'information géoréférencé de la classe scolaire de l'ETFPA qui aide donc à l'amélioration de la planification, la gestion équitable des ressources éducatives et le renforcement des politiques publiques en matière d'enseignement technique, de formation professionnelle et d'apprentissage.
Rappelons que le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG, accompagne stratégiquement les structures publiques et privées dans la mise en œuvre de leurs projets de développement et de modernisation à l'aide d'outils géospatiaux.
Et clap de fin pour le sommet de l'élevage d'Abidjan, dénommé CELAB Livestock Show, qui a refermé ses portes hier après 3 jours de travaux, d'expositions, de panels et plus de 40 rencontres B2B. À la cérémonie de clôture au parc des expositions, le ministre de tutelle, Sidi Tiémoko Touré, a souligné l'importance de ce genre d'initiative qui permet de partager et faire comprendre la vision de l'État. Organisé par la structure Next Sustainable Initiative, en partenariat avec le ministère des Ressources animale et halieutique, cette édition avait pour thème « Rentabiliser votre élevage ». On en fait le point avec Linda Ballier.
Cette 3e édition était l'opportunité d'échanger entre les acteurs du secteur afin de poser les problèmes et trouver des solutions au travers de partage d'expériences. Plusieurs accords de principe et partenariats ont été conclus et les recommandations qui en sont sorties sont formulées ici par Anta Mariam, commissaire générale du sommet.
Les principales résolutions issues des travaux sont les suivantes. Renforcer les politiques publiques qui stimulent l'innovation et l'inclusion des populations défavorisées, femmes, jeunes, enfants et handicapés, surtout toute la chaîne de valeur. Augmenter la production animale grâce à l'adoption de techniques modernes et efficientes. Renforcer les capacités des éleveurs locaux leur permettant de devenir plus indépendants, plus résilients, accentuer avec une augmentation les investissements dans le secteur de l'élevage et enfin diffuser les meilleures pratiques d'élevage à travers des formations, des ateliers et des démonstrations sur le terrain.
Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, ce genre d'initiatives sont essentielles pour implémenter la vision gouvernementale. Sidi Tiémoko Touré.
Pendant 3 jours, ils ont travaillé, ils ont échangé, se sont formés. L'Institut, ils ont décidé de grandir ensemble. Ces espaces sont nécessaires, fortement nécessaires, pour des institutionnels tels que nous, à l'effet de pouvoir implémenter, créer le cadre d'interaction, mais aussi implémenter notre vision, ce que nous attendons du secteur, pour que les acteurs, quand ils partent, ils comprennent la direction que l'État prend, mais surtout qu'ils s'investissent pour l'atteinte de cet objectif.
Notons que le cap est déjà mis sur 2026 pour la 4e édition du CELAB Livestock Show, avec une édition intermédiaire en 2025, axée sur l'halieutique.
Tout autre sujet à présent. En prélude à l'élection présidentielle 2025, une convention a été signée mardi dernier entre les organisations de la société civile et le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté afin d'éliminer toute forme de violence durant ces élections. À partir de janvier, ces deux entités sillonneront le territoire national pour sensibiliser les acteurs sociaux à la paix, nous explique Christian Adjelou, directeur de l'encadrement, du suivi et de l'évaluation des acteurs sociaux.
Dans le cadre des élections à venir, Madame la ministre a lancé un programme appelé Programme de cohésion nationale 2024-2025. Il s'agissait de travailler en synergie d'action avec les organisations de la société civile pour créer un climat favorable de paix à la réussite des élections de 2025. Donc nous allons mettre ensemble des programmes d'action conjointes et aller sur le terrain pour mener des missions de renforcement de capacité des acteurs sociaux. Ensuite, des missions de sensibilisation. Nous allons surtout travailler de concert avec les différentes couches, les jeunes, les femmes et également les guides religieux. En fait, tous ceux qui ont une influence sur la société, tous ceux dont la voix porte. Donc ce sont des organisations qui sont représentées à l'échelle nationale. À partir de janvier, Madame la ministre nous a automatiquement mis en mission. L'objectif étant vraiment d'être au plus près des populations, de porter ce message-là pour que nous ayons des élections apaisées et que nous ne puissions pas revivre le traumatisme de 2020.
C'était Christian Adjelou, directeur de l'encadrement, du suivi et de l'évaluation des acteurs sociaux au ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Désormais, en Côte d'Ivoire, toute personne admise en urgence dans des hôpitaux publics et dans les centres de santé agréés, quelle que soit la situation de l'auteur de l'accident, qu'il soit connu ou non, assuré ou non, seront couvertes par l'assurance du Fonds de garantie automobile, FGA. C'est ce qui ressort du décret visant à renforcer la protection des victimes d'accidents pris en Conseil des ministres jeudi dernier. Écoutons à cet effet les explications du directeur général du Fonds de garantie automobile, Maison Kofi Noël.
Avant l'élargissement du champ d'action du Fonds de garantie automobile, les victimes qui sont éligibles au Fonds de garantie automobile, ce sont ces deux cas. Victimes d'accident de voie publique, quand il y a un délit de fuite, abandonnant la victime à son sort, ou bien défaut d'assurance, la victime, bien sûr, toujours abandonnée à son sort parce que l'auteur qui a une voiture non assurée, donc pas de couverture, ne peut pas prendre en charge la victime. Donc voilà le fondement du fonds qui a existé mais depuis jusqu'à ce que mercredi passé, l'État, dans le cadre de la réforme, demande l'élargissement du champ d'action du FGA.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du fonds?
Bon, depuis le mercredi 20 novembre passé, avec l'élargissement du champ d'action du fonds de garantie, je pense que c'est important à savoir. Il s'agit maintenant pour le fonds de garantie de prendre en charge toutes les victimes. Je vais caricaturer, jusqu'à la prise du décret, sur une échelle de 100 victimes, le fonds de garantie automobile prenait 20% des victimes d'accidents de la voie publique en Côte d'Ivoire. Donc, dans les 80%, il y a 70% qui sont pris en charge par les compagnies d'assurance classiques, donc le gros du lot, 5% qui sont pris en charge par les voitures de l'État, parce que l'État est son propre assureur. Donc, quand une voiture de l'État impliquée dans un accident de la voie publique, c'est l'agent judiciaire de l'État qui prend en charge la victime. Et puis le dernier lot, ce sont les voitures qui viennent du Ghana, du Mali, du Togo, qui sont dans le portefeuille de la carte Brim CDAO. Quand ce type de voiture-là est impliqué dans un accident de la voie publique, celui qui indemnise, c'est la carte Brim CDAO.
Vous écoutiez le directeur général du Fonds de garantie automobile, Maison Kofi Noël. Et en ce qui concerne les déguerpissements des populations du district d'Abidjan, depuis quelques jours, le gouvernement a suspendu l'opération et appelle à accélérer le processus de recasement des victimes, ce dont se réjouit le vice-président du FPI chargé des questions électorales, tout en dénonçant la précipitation avec laquelle l'opération a été faite. Kwaku Kra est joint par Francis Kassi.
Nous ne pouvons que saluer cette suspension, dans la mesure où le Front populaire ivoirien avait dénoncé cette opération qui avait un caractère vraiment inhumain. Et si aujourd'hui le gouvernement a suspendu cette opération, le gouvernement a entendu le cri de cœur du Front populaire ivoirien. Il faut tenir compte des victimes, des populations, de leurs droits. Donc je pense que c'est à juste titre que l'opération a été suspendue.
Et on demande l'accélération du processus de recasement des victimes.
Oui, c'est normal quand tu déplaces, il faut replacer quelqu'un qui a l'habitude de vivre et que l'État se permet de les déranger. Il faut maintenant arranger leurs conditions. C'est ce que nous avions dénoncé parce que c'est un programme qui n'a pas été savamment pensé, savamment planifié. Et dans la planification, il aurait fallu voir ce qu'il était en mesure de faire avant. Prendre en compte les besoins des populations qu'on devrait déguerpir. Il y a les besoins de santé, les besoins de logement, les besoins de scolarisation de leurs enfants, les besoins de transport, les besoins de travail, d'emploi. C'est tous ces aspects qu'il fallait prendre en compte avant de se lancer dans l'opération. Mais malheureusement, ils ont mis la charrue avant les bœufs.
À l'instant, Kwaku Kra, vice-président du FPI, chargé des questions électorales. Le PPACI salue également cette décision, tout en espérant qu'elle ne soit pas politicienne, s'exprimant par ailleurs sur le financement trimestriel légal des partis politiques. Le parti de Laurent Gbagbo révèle n'avoir reçu cette subvention qu'une seule fois durant cette année 2024. Le porte-parole adjoint du PPACI, Tchéidé Jean-Gervais, est en ligne avec Soro Adams.
Nous apprenons que le gouvernement, par la voix du Premier ministre, informe que le président de la République a donné des instructions pour qu'on arrête les opérations de déguerpissement que nous avons qualifiées de sauvages et inhumaines et de donner la priorité au recasement. Eh bien, c'est une bonne chose. Et il faut maintenant s'assurer que ce n'est pas seulement un langage politique pour apaiser ou faire diversion, mais que ce sera suivi effectivement d'actes concrets pour que ces populations désemparées depuis près d'un an, qui sont aux abois dont la vie a été bouleversée, retrouve un minimum de quiétude et de dignité humaine.
Honorable Tchéidé Jean-Gervais, les financements des partis politiques auraient repris. Vous le confirmez?
Non, je n'ai pas la preuve. Il faut rappeler qu'au terme de la loi initiée par le président Laurent Gbagbo en 2005, il y a un financement public alloué aux partis politiques pour renforcer la démocratie. Et ce financement est payé chaque trimestre. Pour 2024, trimestre, le PPACI a perçu uniquement le financement du premier trimestre de l'année 2024. Si des informations circulent pour dire que le paiement a été fait, nous attendons de voir sur notre compte bancaire que cet argent a été effectivement viré avant de le confirmer.
C'était le porte-parole adjoint du PPACI, Thierry Desjean-Gervais. Et un mot de santé dans cette édition pour faire connaître les droits sur la santé sexuelle et reproductive dans la ville de San Pedro. Il a été organisé mercredi un atelier de renforcement des capacités des acteurs de médias. Cette formation, initiée par Médecins du Monde, vise à mobiliser ces acteurs, à porter des messages de sensibilisation aux jeunes et adolescents et surtout à rendre l'information accessible. Les détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa-Sandra.
4137 grossesses en cours de scolarité de septembre 2023 à mai 2024 selon le Conseil national des droits de l'homme. Des données qui interpellent et impliquent qu'il faut former les adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Docteur Ngaman Dominique, directeur régional de la santé à San Pedro.
Les jeunes et les adolescents sont des populations spéciales qui ont des manières de s'exprimer, des manières de se comporter différentes de nous, qu'il faut comprendre et qu'il faut adopter afin de pouvoir les aider à améliorer leur vie, mais surtout leur futur. Nous, adultes, si nous n'avons pas été formés, nous ne comprendrons pas le message des adolescents et nous pensons qu'il y a une opposition entre nous et les adolescents. C'est ce qui les pousse à aller vers la drogue, la prostitution et tous les fléaux que nous avons. Donc, il est important que nous puissions communiquer.
Communiquer et accompagner les adolescents et jeunes, cela peut être possible avec l'appui des acteurs de médias, selon Roselyne Tocalé en charge du plaidoyer à Médecins du Monde.
On doit pouvoir travailler avec les acteurs des médias en faveur des droits et santé sexuelle et reproductive. Notre pays a pris des engagements de faire en sorte que jusqu'au dernier kilomètre, ils puissent avoir l'accessibilité et la disponibilité en termes de méthodes contraceptives à l'endroit de tous et particulièrement à l'endroit des ados et jeunes. Pour éviter les grossesses en milieu scolaire, c'est cela notre combat.
Les acteurs de médias de San Pedro auront donc pour mission de porter des messages adaptés aux droits et santé sexuelle et reproductive à l'endroit des jeunes et ados laissant dans leurs différentes productions. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Ailleurs dans le monde, à l'issue d'une réunion sécuritaire dimanche soir, Israël a accepté la poursuite de la médiation américaine pour mettre fin à la guerre au Liban. Il s'agit d'un accord de principe, mais pas encore définitif. Le cabinet de sécurité israélien se prononcera mardi soir sur un accord de cessez-le-feu au Liban, a indiqué un responsable israélien. Le ministère philippin de la Justice a assigné en justice la vice-présidente Sara Duterte, qualifiée de cerveau d'un complot visant à assassiner le président du pays. Lors d'une conférence de presse samedi, la vice-présidente avait déclaré avoir ordonné que le président Ferdinand Marcos soit tué si elle-même devait être assassinée. Et retour au pays, le dossier d'actualité de ce lundi nous emmène à Biankouma, ville située dans la région du Tonkoui. Face au chômage devenu exponentiel dans la localité, plusieurs jeunes se sont érigés en chauffeurs de tricycles, des moyens de transport qui, bien que nécessaires et moins coûteux, sont cause de nombreux accidents dans la ville. Notre correspondant régional Stéphane Adams s'est intéressé à cette situation. Suivons-le dans ce dossier.
Dans la ville de Biankouma, dans la région du Tonkoui, l'on observe à travers la ville les engins à trois roues, appelés communément saloni, servant de moyen de transport du fait de l'absence des taxis communaux. Élèves et habitants des 10 quartiers les empruntent pour vaquer à leurs occupations. C'est le cas ici de ces deux passagers accostés pour la circonstance. Dame Yvette Gondo et Olivier Thia.
Moins cher, 100 francs à 200.
Ça nous rend un grand service. Quand on emprunte, on est toujours à l'heure à l'école. Ça va.
Même s'il facilite la mobilité des résidents, ces tricycles font l'objet de nombreuses critiques.
Ces chauffeurs la roulent très mal. À maintes reprises, ils doivent faire ces reproches-là. Ils sont un peu arrogants. Je ne sais pas sur quoi ils comptent.
Au Carrefour, il y a eu un accident qui s'est passé, une femme avec son bébé. En tout cas, ils font beaucoup d'accidents aussi.
Plus loin, à la grande gare routière, l'attitude des conducteurs de mototaxis est aussi mise en cause par les chauffeurs.
Les trois roulants, c'est vraiment un casse-tête pour nous. Et à chaque fois, ce sont des enfants qui sont sur des trois roues, qui n'ont même pas le permis. Et vraiment, à chaque fois qu'on se plaint, à cas d'un accident, ils prennent la fuite.
Chaque fois, il y a un accident sur la route. La vieille voulait traverser la route, venant la prière vendredi. Elle était
écoutez.
Pour limiter les excès de vitesse et prévenir les cas d'accident, cet habitant du quartier Notre-Dame 1 de Biankouma, Francis Doué, explique l'existence de doudanes par endroits sur l'axe principal reliant Biankouma Man.
Notre enfant, il quitte dans la cour, il court en passant, trois roues là aussi, on repart doucement. Ça, là, on a pris pour les faire ralentir.
Face aux nombreux reproches, les concernés se prononcent.
Il y a des jeunes qui sont très excités, qui roulent très mal. Et il y a des doyens comme nous, voilà, qui roulent très bien.
L'air de pointe, là, t'es obligé de faire vite, vite. Les gens ont tendance à dire non, qu'on roule mal, sinon on roule pas mal. Le permis, on a besoin de ça même. Même tout le monde n'arrive pas à sortir. Donc, on a besoin d'aide pour faire permis pour pouvoir quitter dans ça aussi.
Au regard de l'utilité de ces engins, certains usagers appellent les autorités compétentes à plutôt prendre des mesures pour une meilleure organisation de l'activité.
Je souhaite qu'on mette de l'ordre, quoi. Parce que c'est des jeunes aussi qui se débrouillent, c'est normal. Et c'est mieux que le vagabondage.
Et si l'État pouvait mettre sa main dedans pour les aider à avoir les permis, pour qu'ils puissent rouler dans les normes, soit pour les former, voilà, pour ne pas qu'il y ait des dégâts.
Notons que la jeunesse de Biankouma en a fait une véritable activité lucrative. Stéphane Adams, de Biankouma, Radio de la Paix.
Et voilà donc qui met ici un terme à ce journal. Tout de suite, le rappel des principaux titres. Ouverture de la CGC Academy, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs au cœur des échanges de cette 12e édition. Et désormais, le Fonds de garantie automobile prendra en charge les victimes d'accidents admises en urgence, a annoncé un décret adopté lors du Conseil des ministres jeudi dernier. Hors de chez nous, Israël donne son feu vert à la finalisation de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, votre magazine Economia avec Jean-Claude Comé.